L'Arabie. North Richmond Street, qui était une impasse, était toujours calme à l'exception de l'heure où l'école des frères chrétiens relâchait ses élèves. Une maison abandonnée de 2 étages s'élevait au fond de l'impasse, séparée de ses voisines par une cour pavée. Les autres maisons de la rue, conscientes d'abriter une vie décente, se regardaient les unes les autres avec des visages bruns, imperturbables. L'ancien habitant de cette maison, un prêtre, était mort dans le salon du fond. Une atmosphère renfermée et moisie régnait dans toutes les pièces et le débarras derrière la cuisine était jonché de vieux papiers inutiles. Parmi ceux-ci, je trouvais quelques livres recouverts de papier, aux pages humides et gondolées, l'Abbé de Walter Scott, les Dévotions de la Communion et les Mémoires de Vidocq. Ce dernier était mon préféré, car ses pages étaient jaunes. Le jardin sauvage derrière la maison contenait un pommier central et quelques buissons échevelés, au pied de l'un desquels je trouvais la pompe à vélo rouillée du précédent occupant. Il avait été un prêtre très charitable. Dans son testament, il avait légué tous ses biens à des œuvres et les meubles de sa maison à sa sœur. Au jour court de l'hiver, le crépuscule tombait bien avant que nous ayons fini de dîner. Quand nous nous retrouvions dans la rue, les maisons étaient sombres. Le morceau de ciel au-dessus de nous était d'un violet mouvant, et les lampadaires de la rue lui tendaient leurs faibles lanternes. L'air froid nous piquait, et nous jouions jusqu'à ce que nos corps se réchauffent. Nos cris résonnaient dans la rue silencieuse. Nos jeux nous entraînaient, pour relever les défis des bandes de voyous des cottages, à travers les gazons sombres et boueux, jusqu'aux portes de derrière des jardins noirs dégoulinants, où les bacs à cendres répandaient des odeurs, tout comme les écuries obscures, où un cocher étriait et curait un cheval, ou faisait tinter les boucles des harnais. Quand nous revenions dans la rue, la lumière des fenêtres des cuisines avait rempli l'espace. Si nous voyions mon oncle tourner au coin, nous nous cachions dans l'ombre jusqu'à ce que nous l'ayons vu rentrer chez lui en sécurité. Ou si la sœur de Mangan sortait sur le pas de la porte pour appeler son frère pour le thé, nous la regardions, cachée dans l'ombre, scruter la rue en haut et en bas. Nous attendions de voir si elle restait ou rentrait, et, si elle restait, nous nous résignions à quitter notre coin d'ombre et à nous rapprocher des marches de la maison de Mangan. Elle nous attendait, sa silhouette découpée dans la lumière de la porte entr'ouverte. Son frère la taquinait toujours avant de finir par obéir, et je restais à la regarder à côté de la barrière. Sa robe se balançait tandis qu'elle mouvait son corps, et la tresse souple de ses cheveux ballottait d'un côté et de l'autre. Tous les matins, je restais tapis par terre, dans le salon de devant, pour surveiller sa porte. Le store était tiré presque jusqu'en bas, de sorte que je ne pouvais être vue. Lorsqu'elle sortait sur le pas de la porte, mon cœur battait la chamade. Je courais dans le vestibule, emportais mes livres et la suivais. Je gardais sa silhouette brune toujours dans mon champ de vision, et lorsque nous nous approchions du point où nos chemins divergeaient, j'allongeais le pas et la dépassais. Ceci se reproduisait tous les matins, jour après jour. Je ne lui avais jamais parlé, en dehors de quelques mots insignifiants, et pourtant son nom soulevait mon sang affolé comme par magie. Son image m'accompagnait même dans les lieux les moins propices à la romance. Le samedi soir, quand ma tante allait au marché, je devais porter une partie des paquets. Nous marchions à travers les rues illuminées, bousculés par des ivrognes et des marchandes, parmi les imprécations des travailleurs, les litanies aiguës des petits vendeurs qui montaient la garde près des tonneaux de joues de cochon, le chant nasal des chanteurs de rue qui chantaient une rengaine sur O Donovan Rosa ou une ballade sur les tourments de notre terre natale. Tous ces bruits convergeaient vers une unique sensation de vie pour moi. J'imaginais que je portais mon calice en sécurité à travers une foule d'ennemis. Son nom, à elle, jaillissait de mes lèvres, à certains moments dans d'étranges prières ou d'étranges louanges que je ne comprenais pas très bien moi-même. Mes yeux étaient souvent remplis de larmes, je n'aurais su dire pourquoi, et parfois, un flot se déversait depuis mon cœur vers ma poitrine. Je pensais peu à l'avenir. Je ne savais pas si je lui parlerais un jour ou pas, ou, dans le cas où je lui parlerais, comment je pourrais lui exprimer ma confuse adoration. Mais mon corps était une harpe, et ses mots, ses faits et gestes couraient sur les cordes comme des doigts. Un soir, j'allais dans le salon du fond, dans lequel le prêtre était mort. C'était un soir pluvieux et sombre, et il n'y avait aucun son dans la maison. À travers l'une des vitres cassées, j'entendais la pluie heurter la terre, les fines aiguilles incessantes de l'eau jouant sur les fonds détrempés. Une lampe lointaine, ou une fenêtre éclairée, brillait en dessous de moi. J'étais reconnaissant de ne pouvoir distinguer grand-chose. Ma raison vacillait, désirant l'obscurité, et comme je sentais que j'étais sur le point de perdre connaissance, je pressais les paumes de mes mains l'une contre l'autre, jusqu'à ce qu'elles tremblent, en murmurant « Ô amour, ô amour !» plusieurs fois. Enfin, un jour, elle me parla. Quand elle m'adressa ses premiers mots, j'étais si confus que je ne savais que répondre. Elle me demanda si j'allais à l'Arabie. Je ne me souviens plus si je répondis oui ou non. Ce devait être une splendide foire. Elle dit qu'elle aurait beaucoup aimé y aller. « Et pourquoi ne peux-tu y aller ?» demandai-je. Tandis qu'elle parlait, elle faisait tourner un bracelet d'argent tout autour de son poignet. « Elle ne pouvait y aller, dit-elle, parce qu'il devait y avoir une retraite cette semaine-là dans son couvent. Son frère et deux autres garçons se battaient pour leur chapeau et j'étais seule à la barrière. Elle tint l'un des poteaux et pencha sa tête vers moi. La lumière du lampadaire d'en face éclairait la courbe blanche de son cou, illuminait les cheveux qui nichaient là et tombait sur sa main qui tenait la barrière. Elle tombait d'un seul côté de sa robe et éclairait la bordure blanche d'un jupon qui n'était visible que lorsqu'elle se tenait au repos. « Tant mieux pour toi si tu peux y aller, » dit-elle. « Si j'y vais, » dis-je, « je te rapporterai quelque chose. » Que d'innombrables folies occupèrent mes pensées et mes songes après ce soir-là. J'avais envie de réduire à néant les jours ennuyeux qui se présentaient devant moi. Je m'irritais contre le travail scolaire. La nuit dans ma chambre et le jour dans la classe, son image s'interposait entre moi et la page que j'essayais de lire. Les syllabes du mot « Arabie » m'appelaient, à travers le silence où mon âme se plaisait, et jetaient sur moi un charme oriental. Je demandai à sortir pour me rendre à la foire le samedi soir. Ma tante fut surprise et inquiète qu'il s'agisse d'un rendez-vous de franc-maçon. Je ne participais presque pas en classe. Je regardais le visage de mon maître passer de l'amabilité à la sévérité. Il espérait que je n'étais pas en train de devenir paresseux. Je n'arrivais pas à rassembler mes idées. Je n'avais quasiment aucune patience avec les choses sérieuses de la vie, qui, parce qu'elles se mettaient en travers de mon désir, m'apparaissaient maintenant comme des jeux d'enfants. Des jeux d'enfants laids et monotones. Samedi matin, je rappelais à mon oncle que je souhaitais aller à la foire ce soir-là. Il était en train de s'agiter au niveau du porte-manteau, à la recherche de la brosse à chapeau, et me répondit sèchement « Oui, mon garçon, je sais. » Comme il se trouvait dans le hall, je ne pouvais pas me rendre dans le salon de devant et m'installer à la fenêtre. Je quittai donc la maison de mauvaise humeur et me rendis lentement à l'école. L'air était impitoyablement vif, et déjà mon cœur m'égarait. Lorsque je rentrais pour le dîner, mon oncle n'était pas encore rentré. Il était encore tôt toutefois. Je m'assis pendant un moment à regarder l'horloge, et quand son tic-tac finit par me porter sur les nerfs, je quittai la pièce. Je grimpai l'escalier et me rendis à l'étage le plus haut de la maison. Les pièces hautes, froides, sombres et vides, me libérèrent et je les traversai en chantant. Depuis la fenêtre de devant, je voyais mes compagnons qui jouaient en bas dans la rue. Leurs cris me parvenaient assourdis et indistincts, et en penchant mon front contre la vitre froide, je portais mes regards vers la sombre maison qu'elle habitait. Je restais là peut-être une heure entière, ne voyant rien d'autre que la silhouette revêtue de brun que projetait mon imagination, délicatement effleurée par la lumière de la lampe au niveau de la courbure du cou, au niveau de la main sur la barrière et au niveau du jupon débordant sous la robe. Lorsque je redescendis, je trouvai Mrs. Mercer assise près du feu. C'était une vieille femme volubile, la veuve d'un prêteur sur gage, qui collectait des timbres usagés en vue de quelque œuvre caritative. Je dus supporter le bavardage à la table du thé. La collation se prolongea pendant plus d'une heure, et mon oncle n'arrivait toujours pas. Mrs. Mercer se leva pour prendre congé. Elle était désolée de ne pouvoir attendre plus longtemps, mais il était déjà 8 heures et elle n'aimait pas être dehors trop tard, car l'air de la nuit ne lui valait rien. Quand elle fut partie, je commençai à faire les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. « Seigneur, j'ai peur que tu doives dire adieu à ta foire pour ce soir, » dit ma tante. À 9 heures, j'entendis la clé de mon oncle à la porte d'entrée. Je l'entendis se parler à lui-même, et j'entendis le porte-manteau vaciller sous le poids de son manteau. J'étais parfaitement capable d'interpréter ses signes. Vers le milieu du déjeuner, je lui avais demandé de me donner un peu d'argent pour la foire. Il avait oublié. « Les gens sont au lit et ont dépassé leur premier sommeil alors qu'il est, dit-il. » Je ne souris pas. Ma tante lui dit avec énergie. « Ne peux-tu pas lui donner l'argent et le laisser partir? Tu l'as suffisamment fait attendre comme ça. » Mon oncle dit qu'il était vraiment désolé d'avoir oublié. Il dit qu'il croyait qu'il y avait beaucoup de vérité dans le vieux dicton « Tout en travail et rien en jeu rendent Jack trop sérieux ». Il me demanda où j'allais, et quand je lui eus répondu pour la deuxième fois, il me demanda si je connaissais l'adieu de l'arabe à son destrier. Quand je quittais la cuisine, il s'apprêtait à réciter le début du texte à ma tante. Je tenais mon florin bien serré dans ma main en descendant Buckingham Street, en direction de la gare. La vue des rues emplies d'acheteurs et illuminées au gaz me rappela le but de mon voyage. Je pris place dans le wagon de troisième classe d'un train désert. Après un temps interminable, le train quitta lentement la gare. Il rampa à travers des maisons en ruine et traversa la rivière scintillante. À la station de Westland Row, une foule de gens se pressèrent contre les portes, mais les portiers les repoussèrent en disant qu'il s'agissait d'un train spécialement affrété pour la foire. Je demeurai seul dans le wagon nu. Quelques minutes plus tard, le train s'arrêta au niveau d'une plateforme de bois improvisée. Je sortis pour gagner la chaussée et vis sur le cadran éclairé d'une horloge qu'il était 10h10. Devant moi se trouvait une vaste construction qui portait le nom magique. Je ne trouvais pas d'entrée à 6 pence, et craignant que la foire ne ferme ses portes, j'entrai vivement par un portillon en présentant un shilling à un préposé à l'air las. Je me retrouvais dans un gigantesque hall entouré d'une galerie qui courait à mi-hauteur. Presque tous les étals étaient fermés, et la majeure partie du hall était dans l'obscurité. Je reconnus le silence qui se répand dans une église après l'office. Je marchais timidement jusqu'au centre de la foire. Quelques badauds étaient rassemblés devant les étals encore ouverts. Devant un rideau, où des ampoules colorées affichaient les mots « café chantant », deux hommes comptaient de l'argent sur un plateau. J'écoutais les pièces teintées. Me souvenant avec difficulté pourquoi j'étais venu, je m'approchai de l'un des étals et examinais les vases de porcelaine et les services à thé fleuris. À l'entrée de l'échoppe, une jeune dame parlait et riait avec deux jeunes messieurs. Je remarquais leur accent anglais et écoutais vaguement leur conversation. « Oh, je n'ai jamais dit une telle chose. Mais si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit. Est-ce qu'elle ne l'a pas dit ? Si, elle l'a dit, je l'ai entendu. Oh, c'est un beau bar !» À ma vue, la jeune dame s'approcha pour me demander si je voulais acheter quelque chose. Le ton de sa voix n'était guère engageant. Elle semblait ne m'avoir adressé la parole que par devoir. Je regardais humblement les grands vases qui trônaient comme des guerriers orientaux de chaque côté de l'entrée sombre de l'échoppe, et je murmurais « Non, merci ». La jeune dame modifia légèrement la position de l'un des vases et retourna à ses deux jeunes hommes. Ils reprirent leur conversation sur le même sujet. Une fois ou deux, la jeune dame me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Bien que je susse qu'il ne servait à rien de rester, je traînais devant son étal, à seule fin de rendre plus crédible mon intérêt pour ses marchandises. Puis je m'en allais lentement et me dirigeais vers le centre de la foire. Je faisais cliqueter mes deux petites pièces de 1 penny sur le tanneur dans ma poche. J'entendis une voix qui annonçait l'extinction des feux à un bout de la galerie. La partie supérieure du hall était maintenant plongée dans le noir. Contemplant les ténèbres, je me vis comme une créature menée et dupée par la vanité, et mes yeux brûlèrent d'angoisse et de colère.